Alors Marie-France, face à la crise des gilets jaunes en France, le président Emmanuel Macron a demandé la création d'une concertation avec tous les partis politiques, incluant Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, qui demandent, eux, une dissolution de l'Assemblée nationale. Crise grave.
Oui, je vais te parler de l'aspect politique tout à l'heure, mais pendant tout ce temps-là, Emmanuel Macron envoie son premier ministre, envoie ses émissaires, va manger avec les CRS pour voir comment s'est passé leur fin de semaine, mais pendant ce temps-là, il ne parle pas directement aux gilets jaune. Mais revenons sur samedi. Nos auditeurs ont tous vu de ces images dans les téléjournaux. Il y a même eu sur France 2 hier, après le téléjournal, il y a eu une grande émission spéciale où on nous remontrait de ces images de dégradation, de casseurs, de pillages, d'émeutes, de policiers, de CRS débordés, des tags sur l'Arc de Triomphe. Vraiment, les symboles ont été touchés. L'Arc de Triomphe, qui est un symbole de la République, mais les quartiers chics, les Champs-Élysées, l'Étoile. Exactement, oui. On en voyait la grille tomber.
La grille tombée.
Et on a vu même des images, j'ai vu des images de vandales qui prenaient des selfies. On est à l'ère des réseaux sociaux, hein. Alors, tu fais de la casse, mais tu te prends un selfie. Sur France 2, un des gilets jaunes qui était interviewé, qui était assis comme interlocuteur dans une des émissions spéciales, en a appelé à la guerre civile. Il a dit « Nous allons rentrer à l'Assemblée nationale ». J'ai vu, évidemment, beaucoup d'appels à la démission de Macron et même appel à son assassinat. C'est vraiment devenu une crise sociale et politique. Et le taux d'appui aux gilets jaunes, il est de plus de 80%. C'est vraiment quelque chose qui parle. Et c'est une semaine cruciale, évidemment, pour Macron et son gouvernement. Il refuse de parler, mais en fait, à qui parler? Hier, dans le Journal du Dimanche, qui est un important hebdomadaire français, il y avait six gilets jaunes qui s'autoproclamaient interlocuteurs. Plein d'autres gilets jaunes ont dit non, il n'y a pas d'officiel chez nous, ça n'est pas structuré. Macron, donc, on annonce un quatrième samedi de manifestation. Alors, on se demande évidemment qu'est-ce qu'ils vont faire après être allés si loin. Et c'est vraiment très confus. Il y a les gilets jaunes, mais il y a des casseurs qui se sont mêlés d'extrême gauche et d'extrême droite qui se sont mêlés aux gilets jaunes. Mais il y a aussi eu des gilets jaunes parmi les casseurs. Bref, tout ça est très, très mêlé. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont bloquer les aéroports? Qu'est-ce que Macron peut faire de plus? Est-ce qu'il va envoyer l'armée? Ce que certains demandent. Alors, c'est vraiment devenu bien plus que la contestation de départ sur la redevance sur les carburants. C'est vraiment, Paul, une société bloquée. C'est une manifestation contre l'injustice fiscale et sociale. Et c'est rendu énorme comme mouvement.
Et tu sais à quel point l'agroalimentaire est important en France. Et bien, avec tous ces blocages à droite et à gauche, on estime que cette semaine seulement, il pourrait se perdre 13 milliards d'euros en agroalimentaire.
Exactement. Et si le mouvement empire, s'il dure, tu sais que le 31, les fêtes de fin d'année arrivent, beaucoup de tourisme, et il y a aussi toutes ces manifestations très particulières à la France le 31
décembre,
la Saint-Sylvestre, où on brûle des centaines de voitures en toute impunité. Alors, imagine, là, si le mouvement continue, tout ça va s'amalgamer. Mais c'est vraiment le retour de la guerre des classes. Il y a vraiment quelque chose aussi, on l'a beaucoup vu, on voyait des gilets jaunes de province, de périphérie, qui montaient à Paris pour aller se venger contre Paris.
Exact.
Il y a beaucoup de Paris contre la province.
Ah, il y a beaucoup de
deux
vengeance.
Modes de vie. Il y a beaucoup de ça. Et tu me parlais de politique tout à l'heure. Alors, comment Macron va-t-il réagir, finalement? D'abord, il a dit... Il a parlé en termes de sécurité, que le dispositif de sécurité serait renforcé cette semaine et samedi prochain. Mais est-ce qu'il va lâcher du lest et de lâcher la taxe sur les carburants? Est-ce que ce sera assez? Beaucoup d'observateurs disent que son avenir politique est maintenant derrière lui. Les oppositions vont-elles capitaliser? À l'extrême-gauche, Mélenchon se manifeste avec les Insoumis, Marine Le Pen avec le Rassemblement national à l'extrême-droite. Mais en même temps, on peut imaginer que les gilets jaunes puisse se constituer en partie. Il y a ça aussi, il y a vraiment une grogne. Et Macron, ce n'était que le début de ce qu'on appelle en France et qu'on commence à appeler ici le vent de dégagisme. On ne veut plus de ces partis traditionnels, ni en Italie, ni aux États-Unis. Trump, c'était ça, c'est exactement ça aussi, une espèce d'insatisfaction qui fait qu'on a voté républicain, mais le moins républicain des républicains. Et en France, le dégagisme a fait qu'on a jeté les partis traditionnels et Macron s'est installé. Mais c'est peut-être juste le premier mouvement de ce dégagisme-là. Peut-être que ça ira plus loin. Et les Français en ont ras-le-bol de leur parti traditionnel. Donc, vraiment, ce n'est pas fini. Je ne pense pas, puis après ce qu'on a vu en fin de semaine, je ne pense pas que le mouvement s'essouffle. Mais s'il dure, comment ça va se traduire? Vraiment, on va suivre ça cette semaine de très près, Paul. C'est passionnant ce qui se passe.
Un qui a été pris là-dedans, il a eu très peur d'ailleurs, c'est le maire de Québec,
mais
Régis
oui,
Labeaume.
Mais oui, mais oui.
Régis est tombé direct sur les manifestations de samedi.
Alors qu'il s'en allait, et il va avoir beaucoup de succès d'ailleurs, il s'en allait attirer les jeunes Français vers Québec.
Oui, mais ça a marché ça.
Bien, certain que ça marche. La société française est tellement bloquée, c'est pas pour rien qu'il y a autant de Français qui sont attirés, entre autres à Montréal, dans ce qu'on appelle le 21e.
Il faut accueillir les cousins. Marie-France.
Exactement. Alors, il va y en avoir à Québec, c'est clair.
C'est comme s'ils étaient des réfugiés de la main-d'œuvre.
Exactement. Voilà.
Les écoles secondaires sont débordées. Comment ça se fait? Avant, on fermait des écoles, même secondaires.
Il y a vraiment une vague démographique qui fait déborder les écoles primaires en ce moment, et une vague d'immigration aussi très importante qui fait qu'on... Et les migrants aussi, les réfugiés, font que vraiment les écoles primaires explosent. Elles ont vraiment besoin d'espace. Mais d'ici 10 ans, et en fait, dans quelques années, vraiment, ça va toucher les écoles secondaires et on prévoit 60 000 élèves supplémentaires dans le réseau francophone d'ici 10 ans. D'ici 2026-2027, une hausse de 22 % et ça va vraiment arriver donc à très grande vitesse et c'est un casse-tête énorme pour le ministère, pour les commissions scolaires, pour les conseils scolaires et l'occasion sera belle évidemment de renouveler le parc immobilier qui date des années 70. On a tous connu les polyvalentes en fait, des bunkers sans fenêtres, des lieux absolument immondes. Ouais. Il faut transformer, il y a eu toute cette réflexion autour du lab école depuis un an, il faut transformer nos écoles entre autres pour lutter contre le décrochage scolaire parce que des lieux...
Est-ce que tu as vécu ça?
Moi, le bunker, la polyvalente...
Ben oui, mais c'est pas, je riais parce que moi, ma première polyvalente,
secondaire.
Il n'y avait pas de maudit fenêtre là-dedans, c'était comme si on était dans un bunker.
C'était une horreur. Moi, je suis allée à Lucien
Pagé. Un abri
nucléaire. Oui, Lucien Pagé qui est vraiment une école architecturalement immonde. Alors, j'ai connu ça effectivement. Et donc, actuellement, il faut transformer les écoles, mais actuellement, le ministère est accaparé par la surpopulation et la pénurie d'enseignement au primaire. Donc, il va falloir qu'il s'occupe du secondaire, mais pour l'instant, on n'est pas encore là. Puis, quel genre d'école va-t-on construire? Parce que dans 15 ou 20 ans, est-ce qu'on sera, une fois la vague démographique passée, est-ce qu'on sera encore en surpopulation? Et évidemment, ça pose tout un casse-tête logistique parce que tous les quartiers et toutes les régions du Québec ne sont pas également débordés. Ça veut dire qu'à l'avenir, à Montréal, en tout cas, ou dans la région métropolitaine, les élèves vont passer de plus en plus de temps dans les bus et dans les métros parce qu'ils n'iront pas à une école secondaire située à proximité. Ça parle beaucoup d'un problème d'appartenance aussi à ton école, à ton quartier. Et là, on retombe dans toute la dynamique du décrochage scolaire. Le risque aussi, c'est les solutions temporaires. Comme on a fait au primaire, agrandir de l'intérieur, occuper tous les espaces disponibles, c'est-à-dire prendre les locaux consacrés aux arts, à la musique, le local informatique. En fait, tout ce que les profs te diront retient souvent des étudiants et qui fait la différence entre le fait de décrocher et de ne pas décrocher. Puis ça pose tout le problème du privé puis du public. En ville, à Montréal, à Québec, tu as beaucoup d'écoles privées. Est-ce que Est-ce qu'elles vont faire de la place à ces nouveaux étudiants ou c'est le public uniquement qui va en payer le coût? Puis à l'extérieur des grands centres, en région où il y a beaucoup moins d'écoles privées, ça veut dire que le privé va directement subir l'impact de la surpopulation. Et on construit beaucoup, regarde Griffintown, regarde ce qu'on veut faire à Montréal-Est, le nouveau quartier qu'on veut créer. On crée des quartiers et on ne construit pas d'écoles ni primaires encore. Moins secondaire. Monsieur Legault, dans son discours de la semaine passée, disait que sa priorité première, c'était l'éducation. Ben voilà de belles questions sur lesquelles il va devoir se pencher. Hein?
Aujourd'hui, il avait une très bonne nouvelle. Nous nageons dans les surplus.
Mais oui.
4 milliards. Et ça va être quand même 1,7 milliard au printemps prochain. Mm. C'est pas mal pour faire des projets.
Oui, alors, il y a les écoles sur la table à dessin, probablement.
J'ai l'impression que si on aura quoi, en tout cas son discours inaugural, il va y avoir de l'argent en éducation.
Oui, ben il faut l'espérer parce que c'est la base de tout, hein. On le dit même de la santé. Un peuple éduqué est un peuple en meilleure santé. On le souhaite, mais il ne faudrait pas que ce soit sur le modèle des polyvalentes.
Merci, Marie-France. À demain.